Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les fous du volant! La saison 2023 s'est achevée à Abu Dhabi au terme de la 22e épreuve disputée cette saison avec la 19e victoire de Max Verstappen. C'est terminé, alors on va faire le bilan de cette saison en utilisant nos outils statistiques développés par Stéphane, la grille type, les duels en essai, tout est prêt? Tout est fin prêt, Stéphane?
Ah oui, tout à fait, il y a des choses qui sont très, très parlantes et qui résument bien cette saison et le sentiment qu'on a.
Eh ben on va voir ça. On vous proposera aussi les tops et les flops de Stéphane et de moi-même, ce qu'on a retenu positivement, négativement, sur les pilotes, sur les équipes, sur les événements, l'ensemble de la Formule 1. Et puis on parlera de la Fédération internationale de l'automobile qui a failli bien terminer cette saison 2023 avec l'instauration d'un nouveau système pour gérer les dépassements des limites de piste grâce à l'intelligence artificielle. Puis on nous a gâché tout ça avec une pénalité.
On se refait pas.
À Sergio Pérez qui est venu tout gâcher. On parlera de ce contexte de fin de saison.
Mais qui nous a réveillés quand même en fin de course.
Oui.
C'était pas mal.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Bon, c'est avec un petit trémolo dans la voix qu'il va falloir qu'on évoque ce tout dernier épisode des Fous du Volant, Stéphane. Après ce 22e et dernier Grand Prix, le temps de faire les comptes avec d'abord la 19e victoire de Max Verstappen cette saison.
Un nombre superbe quand même, 19 sur 22.
19 sur 22,
19, c'est ce qu'on retiendra et ça tiendra certainement longtemps.
Exactement. Alors d'abord, le bilan au niveau du classement des pilotes. Évidemment, Max Verstappen champion, on le savait. Sergio Pérez et Lewis Hamilton deuxième et troisième, ça on le savait. En revanche, c'est Fernando Alonso qui a terminé à la 4e place du classement des pilotes avec 206 points. Le même nombre de points que Charles Leclerc, mais l'Espagnol a plus de 3e place par rapport au Monégasque. Norris est à 1 point du duo ibérico-monégasque et Sainz finalement est le grand perdant puisqu'il échoue à la 7e place.
Il recule de 3 places. Alors, on va parvenir sur tous les records de Max Verstappen, mais il y en a un que j'ai vu et dont on a parlé de temps en temps. C'est qu'en fait, Max Verstappen est le premier pilote de l'histoire à remporter la même année la victoire sur les 5 grands circuits du championnat. Monaco, Silverstone, Spa, Monza et Suzuka. Et ça, c'est juste gigantesque. Ce sont des circuits de seigneurs, de champions, vraiment. Très différents dans leur configuration pour certains. Et ça dit tout de son talent absolument gigantesque.
Ouais, et puis 19 sur 22, ça fait un taux de réussite de 95%. Enfin là, on a explosé absolument tous les records. Il a passé le cap des 1000 tours menés en une saison. Alors évidemment, c'est un chiffre qui est possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de grands prix qu'il y a 10, 15 ou 20 ans en arrière. Au classement des constructeurs, bon évidemment, pas de changement du côté de Red Bull qui était assuré de terminer champion du monde des constructeurs. Et malgré toutes les tentatives de Charles Leclerc, on reviendra là-dessus. Mercedes termine au deuxième rang au classement des constructeurs avec 3 petits points d'avance sur la Scuderia Ferrari et puis McLaren qui devance Aston Martin pour la 4e place. Voilà donc les bilans, on va dire, purement comptables de cette saison 2023. Stéphane, on va redégainer notre grille type parce qu'il y a toujours des choses assez intéressantes finalement avec ce petit outil statistique que tu as développé toi-même. Surprise.
C'est une petite compilation, je veux dire, corrigée. Tout simplement, vous l'avez présenté juste avant le break et elle a pas mal changé parce que on vous rappelle le principe, on additionne toutes les places obtenues en qualification et sur ces 22 grands prix on retire les 4 moins bons résultats tout simplement, et puis ça fait une grille qui est qui laisse apparaître Verstappen en tête. Forcément, logique. Il a fait 13 pole positions devant Charles Leclerc, ce qui n'était pas le cas à mi-saison, parce qu'il avait été plombé quand même par quelques résultats d'élimination en Q1, de la malchance. Là, il est à sa vraie place. Il signe quelques pole positions quand même. Et puis, il est devant Carlos Sainz, qui a fait preuve d'une énorme régularité. Et derrière, c'est serré, mais c'est Russell qui l'emporte face à Hamilton quand même. Et là, la sixième place, la surprise, c'est Fernando Alonso, à 42 ans, le sixième pilote du plateau en vitesse pure. Je trouve ça énorme quand même. C'est rafraîchissant et ça met la barre encore très haut pour les jeunes qui sont derrière. Alors, je cite par exemple Norris, qui est à la septième place, et puis Perez, qui est huitième, sept crans derrière Verstappen. Et pour compléter le top 10, on a Piastri et Gasly. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles ? Est-ce que c'est logique ?
Ah, et je suis surpris finalement de voir Piastri devant Pierre Gasly, parce que en début de saison ça souffrait beaucoup pour McLaren, mais ça symbolise à quel point les McLaren sur la deuxième moitié de saison, on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans le podcast, à quel point les McLaren ont progressé. Et Pierre Gasly donc qui termine finalement sur cette grille type, devant Esteban Ocon. Évidemment, on s'est intéressé à ce bras de fer entre les deux représentants de chez Alpine.
Mais il a fait 11 Q3 en tout, donc sa présence dans cette Q3 globale de la saison est assez logique, alors que Ocon échoue à la porte de la Q2, et c'est un petit peu aussi l'histoire de sa saison. Hein. Il l'a dit plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que je tombe tout le temps du mauvais côté ? Et c'est un petit peu ça. Il a fait 9 passages en Q3 cette année, c'est un petit peu moins bien. On voit la différence aussi au championnat, ça s'est joué à 4 points près, donc ouais. Ces deux-là ont été assez près l'un de l'autre, même si on va le voir un petit peu plus en détail après sur les duels proprement parlés aux essais. Mais c'est Gasly qui a remporté ce titre de meilleur français en Formule 1, meilleur bleu chez Alpine. C'est assez logique. Et puis, en deuxième partie de tableau, moi, ce qui m'épate quand même, c'est la présence d'Hülkenberg, 12e quand même, revenant après 2 saisons off, loin de la Formule 1. C'est juste incroyable quand même. Et il est devant aussi un autre garçon qui s'appelle Albon, que personne n'aurait vu à cette place-là. En début de saison, volant d'une Williams qui est quand même pas très soigné en termes d'aéro, mais qui a fait le grand écart. Là, je voyais quatrième sur la grille à Zandvoort et sixième juste après l'événement suivant à Monza. C'est vraiment le grand écart. Ça veut dire quand même qu'il a su adapter son pilotage, il a su trouver des réglages un petit peu différents pour faire fonctionner cette voiture. C'est
il
juste
a regagné
génial.
Beaucoup de lustre cette saison, clairement Alexander Albon, et on espère pour lui que la Williams aura son mot à dire la saison prochaine, parce qu'avec Albon, on peut avoir un bon client. Stroll aussi, hein, sur cette deuxième moitié de grille. Tu parlais de la sixième place de Fernando Alonso. Lance Stroll, il est
14e.
Aux antipodes.
Il y a 8 places d'écart. Alors, on a l'habitude de dire que quand il y a 3 places d'écart entre coéquipiers, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a vraiment plus qu'un problème. C'est clair, il n'est pas au niveau, tout simplement. Il a été éliminé 7 fois en Q1, donc ça, c'est ce qui plombe son résultat d'ensemble. Et il est juste devant des garçons comme Tsunoda, comme Bottas, Magnussen, Joe, Sargeant, et puis Nick De Vries qui ferme la marche. Mais l'énorme déception quand même, c'est Stroll, clairement, au volant d'une voiture qui était quand même une bombe en
début de saison. Ouais. On passe au duel interne en qualification, parce que ça nous dit souvent des choses. On commence avec l'équipe finalement peut-être la plus équilibrée.
Bien sûr.
George Russell qui a fait jeu égal avec Lewis Hamilton en qualification.
C'est ça, c'est presque, on le disait, hors matériel. Hein, c'est, je pense, le binôme le plus complet, le plus compétitif, le plus affûté. Et là, ils en sortent, ils repartent dos à dos de cette saison à 11 partout. Tout à fait. Et c'est le seul bilan équilibré parmi les 10 écuries,
ouais.
Tout à fait. Et après, il y a eu un autre duel un peu plus, aussi équilibré presque. C'est 4-3 pour Tsunoda face à Ricciardo, mais ils n'ont été mesurés que sur 7 événements l'un et l'autre. Tsunoda l'a emporté aussi face à De Vries, 8-2, et c'est je pense ce chiffre-là qui a alerté AlphaTauri, parce que De Vries était systématiquement moins bien classé que Tsunoda, qui reste quand même assez faible sur un tour chrono. Et puis après, on a 6 places d'écart quand même, 6 résultats en faveur de Gasly qui gagne son duel 14-8 face à Ocon. Donc là aussi, c'est pareil, on retrouve cette impression générale que Gasly a fait une meilleure saison qu'Ocon chez Alpine. Les facteurs ont été divers. La fiabilité aussi est entrée en ligne de compte. Mais bon, là, c'est en qualif. Hein, donc ça ne ment pas. Et puis, il y a 8 places d'écart quand même aussi. Enfin, 8 places, il y a 8 résultats favorables à l'avantage de Leclerc par rapport à Sainz. C'est du 15-7 face à Sainz.
Aussi.
C'est beaucoup, tout à fait. Et c'est là où on voit aussi que sa place de premier pilote Ferrari est assez logique, finalement. Et puis après, on a des choses qui, là, tiennent du déséquilibre vraiment manifeste. Il y a un score de 16-6 pour Hülkenberg face à Magnussen et pour Bottas face à Joe. Donc là, c'est des pilotes aussi qui sont en danger, clairement, pour l'avenir. Et Magnussen et Joe.
Pour revenir en arrière, 15-7 aussi entre Norris et Piastri. Il y a le même écart entre Leclerc et Sainz qu'entre Norris et Piastri.
Oui, je l'oubliais, tout à fait. Alors, Piastri a un petit peu l'excuse
débuter. Il a débuté la saison avec une McLaren qui était nulle part.
Il ne connaissait pas tous les circuits, loin de là, du championnat. Donc, il faut relativiser.
Il a fait quelques grands prix aussi. Il y a eu un moment où on amenait des nouveautés que sur une seule des deux McLaren. Donc, à chaque fois, il y a eu plusieurs grands prix où il avait une version moins performante de l'auto. Donc, ça
a joué aussi, certainement, tout à fait. Et puis après, on passe à 19-3 pour Alonso face à Stroll. Donc là, c'est pareil, c'est assez disqualifiant quand même. Ça relève, je pense, aussi d'une éthique de travail plus que d'une expérience, parce que Stroll ne doit pas être à ce niveau-là. Et puis après, alors là, on est dans la quatrième dimension.
Ouais.
20-2 pour Verstappen face à Perez, sur d'ailleurs des coups de théâtre de Verstappen en début de saison, des coups de malchance. Et puis on finit par 22-0 en faveur d'Albon face à Sargeant. Et là, c'est pareil, c'est le pilote qui n'était pas encore confirmé à la fin de la saison pour l'année prochaine, et il y a certainement une raison.
Voilà donc pour le bilan qu'on peut faire sur l'ensemble de ces données, et ce qui explique en partie, il n'y a pas finalement de choses qui ont été... je me corrige, il y a cet écart, moi, qui m'étonne le plus, finalement, c'est entre Leclerc et Sainz, où je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un tel avantage pour le Monégasque, sachant que c'est 15-7 et sur la grille type, ils sont 2 et 3.
Oui, alors quand il y a 2-3 dixièmes d'écart, ça suffit pour avoir une meilleure position de grille à la fin et l'emporter 2 fois sur 3 en confrontation.
Alors, comme promis, maintenant que la saison est terminée, on va vous proposer nos tops et nos flops. On va essayer d'être rapide, Stéphane, et de dire en quelques mots quels sont nos tops, quels sont nos flops. Est-ce que tu veux commencer? Parce que toi, tu as 2 top pilotes et moi, j'en ai qu'un. Alors, je te propose de commencer, on va alterner.
Vas-y. J'ai 2 coups de cœur, c'est 2 des 3 débutants de la saison. Liam Lawson, je trouve que c'est vraiment génial. Il a été appelé au dernier moment pour remplacer Ricciardo qui était blessé. Il arrive, il a avoué qu'il n'était pas bien préparé pour débuter la saison. Et il survit très vite à l'enfer du Qatar. Il a lui-même dit qu'il n'était pas préparé pour ce Grand Prix spécifique.
Je crois que personne ne l'était, quand on a vu l'état des pilotes à l'arrivée.
Et puis, ce que je trouve génial, c'est qu'il a claqué des portes à Verstappen en course. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas peur de Verstappen.
Non.
C'est quand même assez génial, alors qu'il avait juste un statut de pigiste dans l'écurie B. Et puis, ce que je retiens aussi, franchement, c'est la belle saison de Piastri, débutant appliqué, qui a joué collectif. Qui est quelqu'un de fiable dans le combat, qui ne s'est jamais plaint à la radio, et pourtant il aurait pu. McLaren l'a parfois désavantagé.
Mmh, oui, clairement, c'est vrai. Moi, mon top, il est un petit peu moins original que toi. Moi, mon top, c'est Max Verstappen, parce qu'il a battu absolument tous les records possibles et imaginables cette saison. On le disait, 19 victoires sur 22 Grands Prix. En fait, je n'ai pas de souvenir manifeste d'une erreur de sa part sur l'ensemble de la saison 2023. La précision dans le pilotage, l'engagement permanent. Il n'y a pas une séance d'essai libre où on le voit rouloter comme ça. À chaque fois qu'il monte dans la voiture, ça impacte tout de suite, ça donne tout de suite des informations. Franchement, une saison impressionnante pour Max Verstappen, largement champion du monde pour la 3e fois consécutive. On l'a vu franchir un cap et vraiment atteindre le firmament de la Formule 1.
Et puis la miné complètement Perez.
Ah, oui, ça. Voilà. Il n'y a même plus débat. Autre top, Stéphane, pour toi.
Alors pour moi, c'est James Vowles, le nouveau patron de Williams. dixième et bon dernier du championnat l'année dernière, septième cette année, avec une voiture qui est quand même typée circuit stop and go, clairement. Donc il y a eu des bons résultats à Montréal et à Monza, mais ils ont aussi surpris à partir de la mi-saison à Silverstone, puis après ça s'est enchaîné, des bons résultats, Zandvoort, Austin, Mexico, qui ne sont pas a priori des circuits favorables à cette voiture. Donc j'ai trouvé que l'ensemble était génial, 28 points, c'est le meilleur total de Williams depuis 2017.
Ouais, ça fait une belle saison. Moi, mon top côté pilote, c'est McLaren. Je me souviens de ce qu'on disait lors des essais de pré-saison à Bahreïn. La McLaren, elle est ratée. Ils seront nulle part. Ils vont faire une saison absolument apocalyptique. 17 points à l'issue des premiers Grands Prix pour McLaren. 8 premiers Grands Prix, 17 points. Et ensuite, ça faisait 2 points de moyenne, 2,1 points de moyenne par Grand Prix. Et sur les 14 Grands Prix suivants, ils ont multiplié par 10. Ils ont marqué 20,35 points par Grand Prix sur les 14 derniers Grands Prix. Ça prouve qu'on peut corriger une F1 mal née. Et là, elle était vraiment, vraiment mal née. Ça peut être un exemple pour d'autres équipes qui étaient mal parties et qui n'ont pas forcément réussi à rectifier le tir.
Je suis bien d'accord.
Alors, il nous reste un top chacun. C'est quoi ton dernier top pour toi, le côté Grand Prix peut-être ?
Alors non, je voulais donner un petit coup de chapeau aux mécaniciens et spécialement ceux de McLaren qui ont réalisé un arrêt de 1 seconde 80 pour Norris au Qatar. Et souviens-toi, avec ce règlement 2022, les roues étaient plus volumineuses, plus lourdes et on disait oublier les records d'avant du précédent règlement, on ne fera plus jamais ça.
Si.
Donc ça veut dire qu'on bosse vraiment chez McLaren et dans toutes les équipes.
Moi, mon dernier top, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout. Mon top, c'est pour le budget cap. Parce que le budget cap, pour moi, il a fonctionné. On voit, Mercedes et Ferrari terminent avec 3 points d'écart. La bagarre avec McLaren et Aston, il n'y a que 22 points à l'arrivée. Chez les pilotes, entre Hamilton et Russell, donc entre le 3e et le 8e du classement, il y a 6 pilotes qui se tiennent en 60 points. Ça a été hyper serré. Alors au final, et il y a Red Bull qui est largement au-dessus du lot, il y a Max Verstappen qui est lui aussi largement au-dessus du lot, mais finalement, on a le meilleur pilote qui est dans la meilleure voiture conçue par le meilleur concepteur d'auto de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey. C'est normal que ça gagne, et en plus avec un budget cap, on le rappelle, avec un budget pour Red Bull qui était un petit peu moindre que celui de ses adversaires parce qu'il y avait eu cette pénalité. On pourra pas reprocher à Max Verstappen d'être le meilleur pilote, on va pas pouvoir reprocher à Adrian Newey d'être le meilleur concepteur de voiture. Finalement, c'est juste que ce budget cap, il concorde avec l'explosion d'un phénomène, Max Verstappen, et donc ça donne un écart un petit peu en faux semblant. Honnêtement, pour moi, le budget cap, il fonctionne, et malheureusement, en tout cas de manière un petit peu malheureuse pour la discipline, ça concorde avec l'explosion de Max Verstappen. C'est dommage, mais ça fonctionne. Stéphane, on a parlé de nos tops. Maintenant, on va parler de nos flops, parce qu'il y a des trucs qui ne nous ont pas plu, évidemment, cette saison.
Pas plu ou déçu, on va
dire.
Pour moi, mes deux flops chez les pilotes, c'est des pilotes qui ont déçu, mais qui ne sont pas désagréables en soi. C'est Ricciardo et Magnussen. Je trouve malheureusement que Ricciardo, c'est la fausse bonne idée. Chris Horner s'accroche à ça pour mettre la pression sur Perez. On a vu en 7 Grands Prix que c'était pas dingue. Il s'est même fait taper par Tsunoda sur le bilan en duel en qualif. Et puis Magnussen aussi s'est fait rouler dessus par Hülkenberg qui revenait à la compétition. Donc... Je trouve qu'il y a mieux à faire et qu'on peut aller chercher des jeunes pilotes pour, au lieu de ressortir un peu les vieilles recettes.
Mon flop côté pilote, ce sont des absents. Pour être tout à fait précis, 4 pilotes absents de la grille en 2024. Je veux parler de Nyck de Vries, de Mick Schumacher, de Felipe Drugovic et de Théo Pourchaire, qu'on va quand même féliciter pour son titre en Formule 2. Mais ces 4-là, malgré leur titre en Formule 2, ne seront pas sur la grille de départ en 2024. Alors, soit on estime que être champion de Formule 2, ça ne révèle pas que vous êtes un pilote suffisamment bon pour rouler en Formule 1, et à ce moment-là, il faut changer quelque chose à la Formule 2 pour que ça devienne une vraie discipline d'accession à la catégorie reine. Soit il faut essayer de systématiser que le champion de la Formule 2 se retrouve en Formule 1 la saison suivante, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que là, finalement, ce qu'on dit à ces garçons-là, c'est bravo et désolé.
Oui, surtout que là, on a bien vu en plus en essai libre 1 que Drugovic avait largement sa place, incroyable, plus qu'un Sargent.
Donc ça, il faut revoir.
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on est d'accord.
Autre flop pour toi, Stéphane.
Le Grand Prix du Qatar, on s'en souvient tous, chaleur épouvantable, mauvais timing, des pilotes exténués à un point dangereux à ne pas refaire.
Alors moi, mon deuxième flop, ça me coûte, mais je ne vois pas comment on peut éviter de parler de flop pour l'équipe Alpine. L'ambition en 2023 qu'on nous avait annoncée, c'était, alors qu'on avait terminé quatrième au classement des constructeurs, bah, c'était d'aller jouer avec le Big Three, avec Red Bull, Mercedes, Ferrari. Et en fait, on a fait chemin inverse en terminant donc sixième au classement des constructeurs cette saison. On va pas revenir hein, sur l'épisode de Spa avec le limogeage d'Otmar Szafnauer. J'espère que la construction qui est relancée là sous l'égide maintenant de Bruno Famin va réussir hein, sincèrement, mais si on s'en tient aux ambitions qu'on avait annoncées pour 2023, bah, c'est manqué et faudra faire mieux la saison prochaine.
Et on nous a beaucoup parlé de marketing aussi, d'investisseurs qui avaient placé leur argent dans l'équipe, dans le constructeur.
Faites-nous une voiture qui avance et le marketing fonctionnera tout seul.
Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'après cette annonce, on a vu l'un de ses investisseurs, Austin, dans le garage Mercedes. Je n'ai pas compris. Alors, mais je te signale quand même qu'ils ont remporté une catégorie, c'est le championnat des abandons. Tout à fait.
Ça, tu l'aimes bien celui-là.
9 abandons, voilà, mais ça veut tout dire, hein, tout simplement, dont 3 doubles abandons. C'est la seule écurie à émerger à ce niveau-là. Hein. Williams, Aston Martin et Alfa Romeo n'ont enregistré qu'un double abandon sur l'ensemble de la saison. C'est la fiabilité qui a pêché, en plus de la performance.
Ton dernier flop, Stéphane, s'il te plaît.
C'est As. 8e saison en Formule 1 et on a l'impression que c'est l'éternel retour à la case départ. Pas d'évolution sur cette voiture, vraiment. Hein, sous-traité chez Ferrari, pas d'ambition. Et une écurie qui critique la candidature d'Andretti Cadillac, qui est quand même extrêmement solide, crédible. As, c'est peut-être l'écurie américaine en trop dans le championnat. Moi, j'aimerais en voir une autre.
Moi, mon dernier flop, bah, je vais revenir sur ce que tu as mentionné, le Grand Prix du Qatar, parce que on a vu lors de cette épreuve ce que devrait être un Grand Prix de Formule 1 avec des pilotes qui roulent à bloc. Alors certes, il y avait des conditions météo qui étaient très très éprouvantes, mais donc on a limité, on rappelle, hein, le nombre de tours, je crois que c'était 18 tours par train de pneumatique, donc bah, il fallait rouler à bloc, hein, il n'y avait pas de questions à se poser, il fallait vraiment tirer le maximum de la voiture, il n'y avait plus de questions de stratégie de pneumatique. Et ben, on a vu que ça pouvait rouler très très vite, et que sur les autres Grands Prix, et ben, les pilotes ils se baladent un petit peu, avec comme seul souci d'économiser les pneus, et ça leur laisse le temps de regarder sur les écrans géants ce qui se passe, et même on se retrouve avec des pilotes bah, qui proposent des stratégies alternatives à leur équipe. Alors évidemment c'est spectaculaire quand Fernando Alonso il dit tiens qui c'est qui est en tête à queue machin truc, par contre c'est un peu moins amusant quand on voit un Charles Leclerc qui a été magnifique à Vegas, avec des dépassements vraiment de très 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 grande classe face à Sergio Perez, et qui une semaine plus tard freine, laisse passer ce même Sergio Perez pour essayer d'aller ensuite ralentir George Russell pour essayer d'aller chercher la deuxième place au classement des constructeurs. Non, 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 les pilotes, on veut qu'ils nous fassent vibrer, et des pilotes de Formule 1, pour nous faire vibrer, il faut rouler vite, il faut faire des gros freinages, il faut faire des choses qui sont stupéfiantes et dont ils ont le secret et qu'ils savent faire eux seuls. Le reste, faut laisser ça aux comptables. Faites-nous rêver. Donc voilà, et je trouvais un moyen pour faire que plus souvent, peut-être de temps en temps, faire des grands prix où on impose 3 passages au stand, et à ce moment-là, ça va rouler beaucoup plus vite, ça va rouler à bloc, comme on l'a vu au Qatar. Moi, j'ai adoré ce grand prix, donc ça engendre un flop, c'est vrai, parce que bah, par contraste, tous les autres, on a vu que c'était de la gestion.
Ouais. Mais c'est ça la Formule 1 aujourd'hui, malheureusement.
Alors, on va terminer. Oh, c'est émouvant. C'est le dernier sujet qu'on va développer cette saison 2023 dans les fous du volant, Stéphane. On va parler de la FIA après ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, faut quand même dire que à chaque fois que vous prononcez le mot Abu Dhabi en présence de quelqu'un de la FIA, il y a une sorte de stupéfaction, de stupeur.
C'est un peu la 11e équipe du championnat qui nous réserve sans arrêt des surprises.
Parce qu'il y a toujours ce traumatisme hein, de la conclusion de la saison entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et ça avait plutôt bien démarré avec un système de contrôle des limitations de pistes avec l'intervention de l'intelligence artificielle, Stéphane.
Oui, alors ce que j'ai compris, c'est une caméra placée dans un virage et qui... On voit ces images, en fait, un logiciel d'intelligence artificielle qui les analyse et qui apprend à comprendre ce qui se passe et qui apprend des différents passages au fur et à mesure. Voilà, et qui se positionne et qui ensuite se corrige au fur et à mesure et qui devient meilleur.
Bon, alors, est-ce que
ça a bien marché apparemment?
Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup moins de complaintes dans les radios.
Aucune. Voilà. Je pense qu'il y avait un message aussi qui est passé dans toutes les
sans
équipes.
Doute, en voilà. Disant, bon, laissez-nous essayer le truc, on voit après.
Alors, on en a terminé peut-être avec ces discours, ces plaintes qui avaient suivi Spielberg et Austin, qui avaient fait dire d'ailleurs au président de la FIA, il y a des circuits qui doivent se réformer ou disparaître du calendrier. Le problème, ce n'était pas tant sur le circuit même, mais sur le traitement, vraiment de l'information sur place. Ouais. Et grosso modo, ce qu'on nous a dit...
1200 cas à analyser.
Oui, ouais, 1200 cas.
La folie.
Et ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous dit, c'est que l'intelligence artificielle doit être un filtre, et, pas... un organe de décision, mais c'est un
évacuer,
pouvoir...
En fait, évacuer tous les dépassements manifestes, où il n'y a pas de questions à se
pouvoir,
poser.
Voilà, c'est ça, de supprimer 80% des cas qui ne donnent pas lieu, en fait, à un examen beaucoup plus précis. Et à la FIA, on dit, ça nous laisse du temps pour regarder vraiment ces cas de figure qui sont
litigieux.
Beaucoup plus litigieux. Et l'œil humain sera toujours meilleur que... un capteur positionné sur le circuit relié à la voiture, sur une position GPS de la voiture, mais ça devient gérable. Et par rapport à cette grogne qui avait suivi Spielberg et Austin, ça, qui en devenait même assez inquiétante, ouais. Eh bien les patrons d'écurie, les pilotes se sont un peu calmés. Effectivement, on n'a entendu personne se plaindre. Quand les avertissements tombaient, on n'a pas eu de réaction des pilotes qui acceptaient de fait... ce nouvel outil, et je pense que c'est de bon augure pour la suite.
Je me permets cette petite remarque. En tout cas, on ne nous a pas diffusé à la réalisation télévisée des plaintes des pilotes, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on est un petit peu filtré.
À répétition, en conséquence,
parce
c'est vrai.
On le dit, on le répète, on n'entend pas tous les échanges radio. Hein. Ça cause beaucoup, beaucoup dans les radios, et la réalisation choisit les messages qu'on nous renvoie, donc peut-être qu'il y avait quand même aussi un petit peu de ce côté-là. Mais... l'expérience semble intéressante et il va falloir la poursuivre. Tu disais que l'œil humain serait toujours plus performant que l'intelligence artificielle. Sur le contact au 47e tour entre Sergio Pérez et Lando Norris, qui se battait pour la 4e place, il y a eu contact donc entre le Mexicain et le Britannique. Et là, 5 secondes de pénalité pour Sergio Pérez. Moi, ça m'a semblé très très sévère cette pénalité. Je dis pas que Lando Norris aurait dû l'avoir, mais en fait, à un moment, on se demande s'il peut y avoir un simple fait de course désormais en Formule 1. On a l'impression que dès qu'il y a un contact, dès qu'il se passe quelque chose, il faut sortir le carton jaune, ouais. Pénaliser quelqu'un. Non, ça peut arriver qu'il y ait une incompréhension, une maladresse. La semaine dernière, il y avait eu aussi le contact entre George Russell et Max Verstappen à Vegas. Russell, toute bonne foi, a dit « je ne l'ai pas vu ». Voilà,
ouais,
ça a
sanctionné.
Alors il a pris 5 secondes. Ouais. À un moment, laissez vivre un peu le truc. Parce que si, à chaque tentative de dépassement un peu loupée, on prend 5 secondes de pénalité, écoutez, moi, je doute plus, hein, je reste derrière. Hein.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est après le procès qu'on a pu faire à Liuzzi en disant « mais bon, il met une pénalité à Pérez et ça a interféré ensuite sur le dernier combat. »
Le dernier duel entre
mais
Mercedes et Liuzzi, Ferrari.
Quand Liuzzi applique la pénalité à Pérez, il ne sait pas que Pérez va remonter, va dépasser Russell et va être un arbitre du duel. En tous les cas, un arbitre choisi par Leclerc. Bon, je trouve ça un petit peu too much. Alors, on a entendu que Liuzzi était italien, que ça... pénalisait ouais. Ferrari, que ça interférait dans la lutte pour la deuxième place. On n'a pas du tout eu cette impression objectivement.
Liuzzi, c'est un ancien pilote
fait
Red Bull aussi.
Son travail, tout à fait.
Enfin, à l'époque, Toro Rosso. Donc.
Et ça, 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 ça remet en perspective un petit peu le travail de la FIA, parce que de toute façon, des pilotes, il faut en trouver, des anciens pilotes, c'est un travail quand même qui est harassant, c'est 3 jours, mais ce n'est pas jugé que la Formule 1, c'est jugé les catégories, les courses de support. Donc les gars sont sur le pont du matin au soir à regarder des faits de course, et quand on leur demande aussi le dimanche soir de juger, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais je les sens, moi, de bonne foi.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est là-dessus que je voulais conclure, on ne remet absolument pas en doute la probité, l'honnêteté des membres de cette commission.
Il y en a moins qu'il y en a eu, c'est-à-dire que la FIA aussi a voulu fonctionner avec des pilotes commissaires qui revenaient régulièrement. Il y en a eu 4 cette année, Derek Warwick sur 7 épreuves, Enrique Bernoulli sur 6, Liuzzi donc sur 5 et Danny Sullivan sur 4. Alors, on peut considérer qu'ils n'ont pas, ces garçons-là, un énorme palmarès en Formule 1, c'est vrai. Danny Sullivan est quand même un vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et l'année dernière, on avait fonctionné avec 3 commissaires de plus que ce collège-là déjà qui était en place. C'était Mika Salo, c'était Emanuele Pirro et c'était Roberto Moreno. Alors, Pirro, ancien vainqueur quand même des 24 heures du Mans. Mais surtout, le pilote commissaire italien qui avait décidé une pénalité sur Sébastien Vettel au Canada. Et c'était en 2017, et quand il était rentré en Italie, il y avait une campagne de dénigrement absolument hallucinante. C'était un Italien, pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi avait-il pénalisé, retiré la première place à Vettel? Et il l'avait fait en son âme et conscience, et de façon compétente. Et ce qui était arrivé, c'est que dans la semaine, il y avait des datas qui étaient sorties sur la Ferrari de Sébastien Vettel, qui était absolument confondante à l'encontre du pilote allemand, qui a eu le contrôle complet, total de sa voiture, même dans le passage dans l'herbe, et qui était revenu à la position qui l'intéressait sur la piste, de sorte de bloquer Hamilton. Et là, je pense que malgré tous les outils qu'on peut avoir, ce qui ressort, c'est la sensation de l'ancien pilote qui sait comment ça se passe dans une voiture.
Mais alors, tu vois, tu dis ancien pilote, c'est finalement la seule remarque que je ferais, c'est qu'ils sont quand même tous très très anciens, ces pilotes. Excuse-moi, mais combien d'entre nous ont vu rouler Derek Warwick en Formule 1? Combien d'entre nous ont vu rouler Danny Sullivan, Emanuele Pirro?
Bien, mais
je pense qu'il y a peut-être des pilotes un petit peu plus jeunes qui
S'il n'y en a pas d'autres, je pense, c'est que ça les intéresse peut-être pas parce que c'est quand même un métier qui est difficile, exposé à la critique. Bon, Liuzzi était bien référencé jusqu'à présent et je pense qu'il continuera
qu'il
à l'être.
Voilà, faut qu'il le reste.
En Formule 1,
là,
qu'il tienne.
Là, on n'est pas d'accord avec la pénalité, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec avec l'eau du bain.
Non, et puis surtout, c'est que après, Pérez est devenu un acteur parce qu'il y avait cette histoire de 5 secondes, mais c'est vraiment Leclerc qui a ensuite fait une construction intellectuelle qui était absolument incroyable, jusqu'à ce que Pérez double Russell. Il a un plan en tête d'essayer d'aider Pérez, et dès que Pérez passe Russell, là il se dit je vais le laisser passer. Alors moi je pensais qu'il allait le tracter. Ça se passe au 54e tour, le dépassement, et il a 4 tours quand même pour s'organiser, pour se dire je vais essayer de le... Bon, il a une possibilité, c'est de le tracter. Alors il y a un objectif d'une seconde à gagner par tour sur Russell pour créer ce delta de 5 secondes, c'est déjà difficile, mais là, de là, laisser passer et puis essayer de l'intercaler, il y a quelque chose qui te dépasse dans cette histoire.
Non, puis c'est pas de la Formule 1, ça. La Formule 1, et Charles, il sait très très bien le faire, hein, le nombre de pole positions qu'il a réalisé cette saison. Le métier d'un pilote de Formule 1, c'est de rouler à bloc le plus vite possible, et c'est ce qu'il sait faire très bien, il faut continuer à le faire.
J'ai eu l'impression d'assister à une partie de Bonneto à la fin.
Mais, et puis alors, pour terminer sur cette histoire de Pérez, qui donc dit à la radio, de toute façon, les commissaires, c'est une blague, et on l'oblige à s'excuser, de la même manière que la FIA a demandé aussi, enfin, à rappeler à l'ordre Toto Wolff et Fred Vasseur pour leur langage un peu trop fleuri à Vegas. Eh, les amis, détendez-vous, ça va, on n'est pas...
Il y avait un langage un petit peu familier de la part de Vasseur, il y avait un peu d'agressivité de la part de Toto Wolff dans une réponse qui mettait en boîte un journaliste.
Mais c'est bien, il y a un peu de vie, il y a un peu d'humain là-dedans, il faut que ça soit intéressant. Bref.
Alors, dans tout ça, est-ce que tu penses que Mercedes mérite sa deuxième place au championnat?
Ah bah ça, il n'y a même pas de question à se poser.
Alors moi, j'ai une réponse. Ils sont deuxième au championnat des constructeurs depuis Montmélo, c'est-à-dire la 7e épreuve. Donc moi, c'est ce que j'ai vu à peu près toute l'année. Avant, c'était Aston Martin. Hein.
Ouais.
Ferrari n'a jamais occupé la deuxième place au championnat de toute la saison, donc c'est logique.
Oui, c'est logique. Et puis de toute façon, ils ont plus de points que Ferrari, donc c'est eux qui terminent devant, c'est normal.
Ah, ça, c'est Kimi Räikkönen, on aurait pu le dire aussi.
T'as vu? Oui, mais moi, je rigole plus que Kimi Raikkonen. Je souris plus dans un épisode des Fous du Volant que Kimi Raikkonen sur l'ensemble de sa carrière en Formule 1. Et aux dernières nouvelles, elle n'est pas encore terminée. c'est fini, Stéphane. Ça y est, 2023, c'est du passé.
Ouais, mais souviens-toi de l'année dernière, on espérait un peu plus une concurrence un peu plus ouverte pour la saison 2023. T'as vu ce qui s'est passé.
Et on en est exactement dans le même catégorie.
Tout à fait.
Alors, juste quand même, pour vous dire que les essais de pré-saison auront lieu, donc c'est le même modèle que cette année, du 21 au 23 février. Et puis ensuite, il y aura le week-end suivant, le premier Grand Prix qui aura lieu à Bahreïn. Attention, ça sera un samedi, le 2 mars. Et nous, on enregistrera le premier épisode des Fous du Volant, a priori, dans la journée du lundi 4 mars 2024. Sauf si on décide, parce que ça nous démange, de vous faire un petit numéro la semaine d'avant. Le mode le plus simple, c'est de vous abonner au Fous du Volant. Et comme ça, si on décide de faire un épisode spécial, parce qu'on travaille nous-mêmes pendant l'hiver, on essaye d'aller grappiller des interviews avec des ingénieurs, avec des pilotes, avec tous les gens qui peuvent avoir des choses intéressantes à nous dire. Abonnez-vous et comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien louper. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et je vous le disais donc à vous abonner. Ça y est, 2023 est terminé. Les Fous du Volant, on va pouvoir couper le contact de manière un petit peu plus longue et on se retrouve donc a priori le lundi 4 mars. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés tout au long de la saison. Je pense à Marion Rabot à qui on donne beaucoup de travail, à tous ceux, Seb Petit, il y en a eu plein.
Adrien Rio, Antoine Le Breton qui nous ont assuré la réalisation.
Marco Popovic qui fait les
visuels, les, pour les,
pour
les tableaux.
Pour les pastilles vidéo.
Qui vous informe de toutes les statistiques qu'on peut vous fournir pour appuyer notre propos.
Tous nos interlocuteurs qui nous donnent des infos aussi tout au long de la saison. Et puis ceux, les principaux, ceux à qui on doit les plus gros remerciements, c'est ceux qui nous écoutent chaque semaine. Merci. Et puis on se retrouve début 2024. D'ici là,
on rentre au garage
oui,
et on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.